Peut-être pour t'amener à préciser certains points, quand tu dis que, je parle d'une question très générale que tu as soulevée, quand tu dis, on parlait de révolution numérique, c'est discutable parce que certaines choses bougent très doucement, et en même temps certaines choses bougent très vite. Finalement, est-ce que tu vois clair dans ce qui fait que certaines choses bougent très doucement et que d'autres bougent très vite ? Qu'est-ce qui a des effets d'accélération ?
Des moments où ça se cristallise, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, des efforts de conception. Il y a d'autre part de l'arrivée de la maturation de production industrielle qui fait que, par exemple, pour que le smartphone fonctionne, il a fallu qu'il échoue pendant 20 ans. Il a fallu que ces modèles économiques se trouvent, il a fallu que les batteries et les écrans soient disponibles à la bonne masse, il a fallu que les réseaux soient disponibles à tel moment. Parfois, le fait que quelque chose s'impose, je veux dire, Steve Jobs s'était planté avec le Newton, NTT Docomo, les Japonais, sont venus observer de près, décortiquer pas à pas le Minitel français. Le modèle du smartphone qu'on a dans nos poches, c'est le modèle du Minitel français. Passé par le Japon, revenu par les États-Unis, redescendu dans nos poches. Et donc, pendant que nous, on disait le Minitel, quel truc ringard, les Japonais, de façon assez pragmatique, disaient à quel endroit il y a un modèle économique qui a l'air de tourner assez rond, amène de l'info déjà à 5 millions de personnes qui s'en servent tous les jours, amène des interactions de services, amène déjà des possibilités de paiement, puisque dans les Minitel des années 80, il y avait déjà la carte à puce. Et donc, comment est-ce qu'on peut tirer parti de cette histoire-là ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en sens inverse, il y a des précipitations dans la chute. Il y a des acteurs dont le numérique va favoriser la chute ou la fragilisation finale. En général, c'est que le fruit était mûr. Si je prends l'exemple de ce qui est arrivé dans une partie de l'économie du disque, il y a des acteurs qui ont payé parce qu'ils peuvent toujours dire qu'ils finançaient la création, ils ne finançaient pas la création. Voilà, ils prenaient des marges copieuses avec une proposition de valeur nulle, donc au revoir. Donc ça joue un rôle assez fort. Et si tout à l'heure je vous disais par exemple le livre papier n'est pas remplacé par le livre numérique, l'économie du livre a une fragilité telle que, en général, la production d'un livre, c'est une production de prototype, ce qui veut dire que sa rentabilité moyenne est en général de moins 15%, et elle est sauvée par un petit nombre de succès. Il se passe exactement le contraire sur la presse papier. La presse papier, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que les kiosques sont en train de fermer, le fruit était mûr, il tombe. C'est pour beaucoup de raisons qui ont certainement commencé en partie par le gratuit, le marché de la publicité, le marché des annonces, et puis l'effet domino qui vient derrière. Mais au fond, on peut le dire, ça va très vite, mais il y a une histoire très très longue en amont.
Oui, juste une question concernant le modèle économique du numérique. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui? On a, pour les services à la personne, vous avez certains modèles où vous n'avez qu'un acteur majeur. Je pense en particulier à Airbnb, par exemple, où, qui a un peu monopolisé les choses. Alors que dans d'autres secteurs, vous avez encore plusieurs petits acteurs, comme dans le covoiturage, où vous avez un certain nombre d'opérateurs. Comment vous voyez les choses? Quel est l'avenir dans ce type d'économie? Et je poserai une deuxième question. Dans le fait qu'il y ait plusieurs acteurs dans ce type de service, en particulier pour le covoiturage, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une perte d'efficacité, puisque finalement l'usager final ne sait pas exactement sur quelle plateforme il doit aller? Enfin, il est obligé de faire plusieurs boutiques, j'ai envie de dire, pour trouver chaussure à son pied.
Alors, sur la question du modèle économique, la réponse va être très compliquée, parce que les configurations sont extrêmement différentes. En fait, une Une première question, c'est de savoir si on est en présence d'un écosystème ouvert ou pas. En fait, est-ce que dans des systèmes où il y a eu, par exemple, innovation ouverte, où il y a eu disruption, où il y a eu, etc., la recentralisation a déjà eu lieu, des oligopoles ont déjà repris le dessus, etc. C'est le cas dans un ensemble de secteurs. Et au fond, ce qui s'est joué ces cinq dernières années avec le renforcement de très grosses plateformes et la recentralisation du web, joue un rôle anti-écosystémique. Je ne sais pas si vous avez lu les interventions récentes de Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du web, qui dit « je ne reconnais pas le web que j'ai créé il y a 30 ans, et en fait, quelque chose de fertile disparaît à partir du moment où un petit nombre de plateformes concentrent l'énorme partie des échanges, de la valeur, etc., et ne la reverse pas au dehors. » Donc, une question va être de dire, est-ce que il y a des raisons de domination économique, de faiblesse des autres acteurs, ou des raisons réglementaires, par exemple, qui ferment ou qui ouvrent le jeu. Ça, c'est un aspect. Et dans certains champs, cette question marché régulé, marché pas régulé, est en plein milieu du chemin. Si je prends l'exemple qu'on a pu voir avec Uber et les VTC, en fait, des acteurs comme Uber se sont infiltrés dans tout un ensemble de domaines très régulés où ils ont fait le tour. Et les grandes plateformes sont allées avoir une proposition de valeur assez agressive, y compris à des endroits qui sont les plus régulés de la société, quand il s'agit de nourrir les gens, de transporter des personnes, de les héberger, et ainsi de suite, en disant, bah, moi, je vais, comme c'est entre particuliers, entre guillemets, je ne m'occupe pas des normes handicapées, je ne m'occupe pas de faire certifier si le chauffeur, il a vraiment son permis de conduire, il est vraiment assuré, je ne m'occupe pas tout un ensemble de choses, donc... au revoir, et puis à propos, je ne paye pas d'impôts non plus. Donc, une partie de ça joue avec un numérique qui est très, historiquement, a été très favorable aux écosystèmes, au fait que des nouveaux acteurs puissent monter. Les standards ouverts du web, de l'Internet, le web en tant que plateforme ouverte, etc., pas breveté, donc il peut y avoir. Comme le disait Eric von Hippel, plusieurs dizaines de millions d'innovateurs à des endroits où il y en a moins. Est-ce que, donc je reviens à la question de la centralisation, est-ce que c'est une perte de valeur d'avoir des... En fait, sur le covoiturage, vous voyez qu'en général, les concentrations se font. Il n'y en a pas tant que ça des plateformes de covoiturage, et les gens sont d'accord pour dupliquer sur deux ou trois plateformes. À d'autres endroits, si je prends des études qui sont très insuffisantes, par exemple sur les parcours des demandeurs d'emploi à l'ère des plateformes numériques, le numérique a accru le calvaire du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi est forcé, là où il envoyait 100 CV tapés à la machine, ou par la poste, même si c'était de taper sur ordinateur, il doit multiplier sa présence sur des dizaines de plateformes et avoir des dizaines de milliers de contacts qui n'ont pas créé un seul emploi de plus, et où en plus on sait très bien que dans les trajectoires vers l'emploi, pour une petite majorité de gens, le matching, l'appariement entre l'offre et la demande n'est pas le sujet. Les paramètres sont beaucoup plus complexes. Ce sont les paramètres de trajectoire personnelle, de vie familiale, d'implantation géographique, d'apprentissage, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans certains cas, on a vraiment intérêt à des centralisations. Dans d'autres cas, on a intérêt à des interopérabilités. C'est-à-dire, potentiellement, on a vu arriver de plus en plus de services qui vont savoir agréger, par exemple, les annonces de covoiturage. Les services territoriaux qui vont vous permettre de dire, bah, tiens, sur les 5 plateformes qui proposent du covoit sur le territoire, tu vas avoir 2 places sur covoiturage libre, 3 sur Blablacar, etc. Donc, ça veut dire que ça se contrebalance quand même.
Mais par rapport à... C'est très intéressant, ça veut dire que la réponse à la possibilité de... Tu parlais tout à l'heure de la possibilité d'avoir des plateformes, des offres décentralisées qui fassent, qui s'ancrent dans les mêmes champs que les grandes plateformes. Donc il y a quand même l'argument qui était mentionné sur l'efficacité de la plateforme unique qui agrège tout le matching. C'est quand même un argument très fort. C'est comme ça que les plateformes fonctionnent. Donc ce que tu dis, c'est qu'au fond, l'interopérabilité et la possibilité d'avoir des agrégateurs d'offres sont susceptibles finalement de... Mais est-ce que ces agrégateurs ne vont pas simplement être les nouvelles plateformes dominantes ?
Oui, c'est ça la question. En fait, l'histoire de base, c'est que une part de ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que les propositions peuvent se multiplier. C'est aussi la même chose et la raison pour laquelle on est paumé. Le modèle dominant sur le plan économique et sur le plan de l'usage à la fois du numérique, c'est le modèle de plateforme qui est le point d'entrée unique et qui en plus a l'avantage pour les économistes d'être un marché biface, c'est-à-dire d'avoir à la fois des choses à vendre aux fournisseurs de services et à l'usager. Donc c'est vraiment c'est ce que fait Apple avec son App Store. Ils vont prendre un certain pourcentage d'un côté et puis ils vont proposer des choses des deux côtés et ils deviennent à un moment donné très difficiles à évacuer. Ça devient très difficile d'être leur rival. Et en plus, pour nous, c'est simplifiant quand même de se dire je ne vais pas devoir aller à plein endroit. Et néanmoins, l'ingéniosité des concepteurs fait que on va toujours pouvoir trouver des couches supérieures qui permettent de choisir entre les stores différents, d'avoir des propositions alternatives, etc.
J'avais une question sur la place des collectivités, sur notamment le sujet des tiers-lieux, où c'est absolument foisonnant en ce moment, chaque conseil départemental, chaque métropole, chaque PETR imagine l'implantation de ces tiers-lieux. Je trouve que c'est un sujet intéressant pour où est la place du public et de la collectivité. Est-ce que l'idée, c'est de se dire, oui, il y a un intérêt. Alors, je prends mon exemple toulousain. Si Toulouse ne gère pas la question de la congestion sur le périph, Toulouse va perdre en attractivité. On en est à ce point-là de saturation. Donc, à un moment, Toulouse Métropole se dit, oui, moi, j'ai plutôt intérêt à ce que mes salariés qui habitent dans le Gers, dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, peut-être que deux jours par semaine, il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Ça, c'est le télétravail. Bon, là, on peut se dire, tiens, ça y est, on est peut-être enfin au télétravail, 30 ans après, on retrouve les 30 ans. Ce qui n'est pas tout à fait la question du tiers-lieu, qui, lui, va créer un point d'ancrage et peut-être aussi de la fertilisation croisée. Donc, est-ce que la question, c'est Toulouse Métropole aide Airbus à avoir des tiers-lieux dans le Gers, ou est-ce que Toulouse Métropole dit, moi, pour mes salariés publics, avec le conseil départemental de Haute-Garonne, la région Occitanie, etc., tous les fonctionnaires qui bossent dans nos collectivités, ils peuvent tous aller travailler à tel et tel endroit dans un lieu public, dans une espèce de maison du CNFPT. Où se situe le rôle de la puissance publique dans ce type de questions-là ?
Alors, je n'aurais pas de réponse absolue, j'aurais que des réponses situées sur ce sujet-là comme sur d'autres, c'est-à-dire qu'au fond, les territoires n'ont pas les mêmes enjeux les uns que les autres. Et en fait, en l'occurrence, un territoire métropolitain dense et avec une vivacité économique et qui a des problèmes de congestion va avoir une stratégie très différente d'un territoire plus enclavé et depuis lequel les mobilités sont compliquées vers des bassins d'emploi, par exemple. Donc je pense qu'il y a une clé de lecture, c'est la clé de lecture des mutations des trajets domicile-travail et des conditions liées au travail. Il y a tout un ensemble de chantiers, on bosse avec l'ANACT depuis un petit moment, on anime encore pour un an et demi un projet PIA qui s'appelle le transformateur visant à faire émerger des projets innovants en matière de travail et d'emploi. Et en fait, la question des conditions de vie au travail à l'ère numérique est une question pas exactement légère. En réalité, une partie de ce qui a échoué sur le télétravail, par exemple, c'est l'hypothèse que, bien sûr, nous avons tous chez nous une pièce parfaitement autonome qui ne gêne pas du tout notre vie privée dans nos spacieuses demeures où ni nos conjoints, ni nos enfants, ni personne d'autre ne va vouloir nous embêter. Et que probablement, on commence à avoir des annonces d'emploi qui disent, comme hier, on nous disait, il faut avoir un permis B et une voiture, il faut que vous ayez un domicile connecté avec une connexion sécurisée et un équipement qui va remplir telle et telle norme. En tout cas, ça va monter. Donc une partie de l'hypothèse des tiers-lieux, elle est intéressante à cet égard, parce que l'isolement individuelle par rapport au collectif de travail, c'est de la souffrance au travail. Donc ça veut dire que le fait d'avoir un espace de travail de proximité, plutôt que d'être cantonné au domicile, c'est dans tout un ensemble d'entreprises qui vont non seulement tolérer le télétravail, mais pousser au télétravail parce que ça évite d'avoir du foncier là où le foncier est cher, ça va jouer. Donc ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est de se dire peut-être attention à la floraison des tiers-lieux mètres carrés. Donc là-dessus, rien de neuf, hein, on l'a déjà vu sur les premières générations de maisons de santé, les premières générations de maisons de tout. À chaque fois qu'on fait une maison de quelque chose en partant d'opportunités foncières plutôt que de dynamique socio-économique, d'usage, etc., on récupère les mètres carrés un an plus tard. Hein. Donc à quel moment est-ce qu'il va y avoir des dynamiques et à quel moment est-ce que l'acteur public va pouvoir favoriser ces dynamiques, les accompagner, permettre peut-être la mutualisation des mètres carrés avec d'autres usages, parce que le modèle économique du tiers-lieu n'est pas toujours suffisant à faire vivre ces mètres carrés-là, à s'occuper du chauffage, à s'occuper d'oreillettes fermées et tous les points de fragilité qui vont avec. Moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, il y a un rôle de synchronisateur, d'aménageur, de mise en visibilité de l'offre qui permet aussi de calmer des ardeurs ici et là. Mais moi, dans beaucoup de cas que j'ai vus où des collectivités voulaient être chef de file d'un projet de tiers-lieu, c'était la mauvaise idée qu'elles soient chef de file, parce qu'elles ne pouvaient pas emporter la dynamique, sauf dans des cas où il y a une raison particulière, par exemple pour leurs propres agents, pour etc.
Bonjour, Aline Picaroni, UMM. Moi, je voulais revenir sur l'impact du numérique sur le travail. Vous avez dit que, en fait, ça, sur certains postes, il y avait un retour au 19e. Or, nous, on travaille beaucoup sur, justement, l'impact de la numérisation, notamment dans les industries, ce qu'on appelle l'industrie du futur. Et ce n'est pas l'analyse que nous faisons. On sait que les postes de travail, pour 70%, vont changer, mais plutôt avec des postes d'opérateurs qui gagneront en autonomie et en de responsabilité, donc j'aimerais que vous développiez ce point.
Alors, je pense que pour le coup, il y a une différence très forte entre les secteurs. C'est-à-dire que quand on regarde l'industrie ou qu'on regarde les services, on n'est pas en train de parler de la même chose. Par exemple, pour des tas de raisons de législation, de sécurité, d'historique et de qualité, il est à peu près hors de question qu'une partie du travail industriel, je le ramène à la maison. Donc dès lors qu'on va être dans ces contextes-là, on a la plupart du temps, sur certains des aspects, c'est-à-dire les aspects du temps de travail et de la porosité ou du débordement domicile-travail, quelque chose sur lequel, dans nos pays où il y a des législations, ça va, quoi. Il ne va rien se passer. Dans d'autres pays, ça peut se passer un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une distribution de la production micro-industrielle en dehors du champ du site industriel classique et en dehors du contrôle du site industriel classique. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Et puis, en revanche, sur d'autres sujets, ce qu'on voit apparaître, si je prends l'exemple, hein, il y a 5 ans quand même, il y a eu cet assez bon rapport TIC conditions de travail qui était fait par la Direction générale du travail et France Stratégie. Et un des exemples qu'il citait, c'était celui du voice picking. Alors, on n'est pas dans le champ directement industriel, on est plus dans le champ de la logistique, mais potentiellement industriel. C'est la télécommande en fait du cariste par casque et le fait d'aller lui dire prends ceci, prends ça, etc. Et donc la transformation d'opérateur humain en opérateur asservi complètement par la machine. Et je pense qu'il y a toujours cette hypothèse, cette option-là, de dire, un, les hommes sont les assistants des machines, deux, les hommes n'ont plus la moindre marge de manœuvre, parce que la machine est tellement réputée plus compétente, etc. J'ai fait l'an dernier avec l'ADEME une étude prospective autour de, des questions précisément usines du futur. Alors eux, c'était le sujet usines du futur, développement durable et un peu de prospective dedans, et en voyant qu'au fond, les attendus du développement durable étaient assez peu présents dans les plans industriels sur les usines du futur, mais que en revanche, il y avait quelques éléments à relier qui pouvaient être intéressants sur une usine propre, une usine proche, une usine sobre, etc. Donc c'était intéressant comme champ. Mais j'ai travaillé là-dessus, par exemple, avec des, en utilisant des techniques de cartographie de controverse avec des élèves des mines et de Télécom Paris-Tech. Et ils ont spécialement choisi le sujet du travail dans l'usine comme sujet. Et les différents groupes qui ont travaillé ont tous pointé la question de la coexistence des humains et des robots comme une question qui les intéressait terriblement. Alors quand je dis robots, c'est pas forcément les robots machines-outils, ça peut être les robots algorithmiques aussi, hein, les conseillers bancaires, ou tout ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre de la souffrance au travail par rivalité mal vécue entre humains et algorithmes, ou humains et machines. Une partie de ce qu'on voit aujourd'hui dans la fabrication accompagnée par la numérisation se passe pas du tout comme ça. Mais il y a des points tout à fait situés dans lesquels ça se passe pas bien, et donc dans lesquels on va avoir soit un accroissement de la souffrance au travail, soit un retour au travail à la tâche, parce qu'on va avoir du mal à gérer les débordements, et ainsi de suite.
Parce que nous, ce qu'on voit dans tous les cas dans l'industrie métallurgique, c'est l'apparition des cobots, hein, qui sont maintenant très présents, qui sont tout à fait le contraire. Hein, c'est-à-dire, en fait, le robot est l'assistant de l'homme, lui l'aide à effectuer les tâches qu'il ne peut pas effectuer, qui sont trop pénibles, et s'arrête. C'est dès que l'homme bouge, il s'arrête. Enfin, c'est vraiment l'assistant de l'homme.
Oui, mais vous voyez que c'est une philosophie d'action faire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas la technique permet l'inverse. Bon, ça nous permet par rebond au fond de parler aussi de la santé au travail. Tout ça.
Oui, moi j'avais une petite question sur la position des usagers, des citoyens sur le numérique et notamment cette montée en puissance un peu du rejet du numérique. Alors, en fait, c'est souvent que quand on fait des séances un peu de concertation avec des habitants pour faire des projets, des morceaux de quartier, on pose la question du numérique et puis c'est souvent une réaction civile. On se dit non, le numérique ça va, on a assez. Faites-nous plutôt des zones de déconnexion. Moi, le numérique et vivre ensemble, ça va pas bien avec. Qu'est-ce que vous voyez en termes de position justement des usagers par rapport à ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une montée en puissance justement de l'alternative par rapport à ces grandes plateformes? On parle de Quant vis-à-vis de Google. Hier, vous avez évoqué Snips, je crois. Voilà. Est-ce que, en fait, il n'y a pas en France la possibilité de faire monter une offre qui est beaucoup plus locale, qui est beaucoup plus distribuée et qui rejoint un peu aussi cette peur et ce rejet du numérique?
Alors oui, je pense. Alors pour le situer, les travaux de recherche sont pas encore mûrs. Il y en a certains qui ont commencé un peu tôt en la matière. Et si je prends un exemple, il y a un très bon projet ANR construit par Francis Jauré-Guibéry à l'université de Pau, notamment sur ces sujets-là, qui est sur la déconnexion volontaire des TIC. Et en fait, au moment où il l'a fait, il avait des constats qui étaient un peu limitrophes, pas encore mûrs, et puis depuis j'en ai reparlé avec lui, il commence à avoir des constats un petit peu plus consistants. La question de se dire qu'est-ce qui se passe et qui au fond est en train de se dire je sors du numérique, qui est en train de se dire je me déconnecte. Alors déjà on le fait tous quand on dit partir en vacances c'est se déconnecter. Et on le fait pas toujours. On le dit, hein, on dit c'est se déconnecter. Je me déconnecte. Allez. en fait, une part de ça est vue sous l'angle du désarroi, de la fatigue, du stress, etc. C'est-à-dire l'espèce de pression qui est vraiment la zone de burn-out qui est la zone du soi autonome. Le fait d'avoir beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités, et les outils qui rappellent constamment cette histoire-là, et les mecs contribuent terriblement à ça. Et donc il y a tout un ensemble de, pour le coup de témoignages et de publications autour de comment le numérique est un producteur assez ou un coproducteur de burn-out assez élevé, aussi coproducteur avec des pratiques de management, coproducteur avec des injonctions sociétales, etc. Deuxième chose qui se joue, c'est la détresse de la déshumanisation, et qui, notamment avec le pic qu'on constate depuis 2 ou 3 ans, qui est une histoire ancienne, mais avec la dématérialisation des services publics. C'est vraiment l'effet révélateur, la goutte d'eau, à partir du moment où tout un ensemble de choses deviennent obligatoires. Depuis les années 80, il y a des services numériques obligatoires, etc. L'inscription universitaire, dans les années 80, elle était sur Minitel, obligatoire, il n'y avait pas le choix. Mais admission post-bac puis Parcoursup, on rentre dans autre chose que du processus, on rentre dans du traitement incompréhensible et on n'y voit pas. Et puis, il y a l'effet Daniel Blake, hein, c'est-à-dire pour ceux qui ont vu le film de Ken Loach sur moi, Daniel Blake, montrant en fait un excellent film qui montre en fait comment quelqu'un qui vaut quelque chose dans sa vie, qui a une histoire, un bagage, etc., se retrouve à ne rentrer dans aucune case en tant que pas vraiment demandeur d'emploi, pas vraiment reconnu, invalide, pas vraiment, etc., et en détresse dans le système public britannique de l'emploi, parce que hors d'état de cocher la bonne case pour tout un ensemble de raisons, avec la souris, avec le système et la productivité du process. Donc ça c'est assez fort. Et puis il y a la question de la question du militante. La question plus militante qui est en train de... Je ne sais pas si elle monte, mais elle est plus visible qu'avant. Une partie de ça est une approche de décroissance, hein, très clairement. Ça consiste à associer franchement tout ce qui se passe avec le numérique, avec une course en avant technologique et avec, au fond, un modèle sans issue et absolument pas soutenable. Et ça, on l'entend de plus en plus souvent. Moi, quand je travaille, ça fait 3 ans qu'on a un programme transition au carré, transition écologique et numérique, et ce que je constate, c'est l'écart interculturel est extrêmement fort. Une partie de ce qui se joue dans toutes ces difficultés, j'ai fini par l'interpréter sur la base d'un terme qu'a utilisé Roberto Casati, qui a fait un livre qui s'appelle Contre le colonialisme numérique. Et je me suis dit, en fait, la difficulté n'est pas forcément le numérique, avec ses composantes que je vous ai exposées, mais la posture coloniale du numérique. Le fait de dire, au fond, il arrive comme s'il n'y avait rien avant, tout le monde doit baisser le nez, il faut faire sa transformation digitale, et ceux qui ne le font pas sont dans la résistance au changement. Et donc, une partie des gens pouvait dire, c'est pas pour moi, c'est pas grave, j'en veux pas, ça devient de plus en plus compliqué, et l'hypothèse que, au fond, les gens qui sont pré-numériques ne valent rien ou sont des retardataires, moi j'ai un petit peu insisté dans mon intervention d'hier sur le fait que nous sommes tous des retardataires, c'est-à-dire dès lors qu'on décrit le progrès comme la diffusion du numérique, on va tous toujours courir après, et on a tous des difficultés numériques, donc potentiellement, on est tous des retardataires, des réfractaires au changement, des gens qui n'y arrivent pas bien, des gens qu'il faudrait rééduquer, etc. Je vois aujourd'hui, y compris chez des responsables ou des directeurs de transformation digitale d'entreprise, j'en ai une de grande entreprise française qui fait voler des avions, qui, intervenant à la même tribune que moi, a dit « mais en fait, je suis directrice de la transformation digitale, on le fait parce que tout le monde le fait, mais au fond... Ça n'a pas de sens particulier. Des congrès, hein, pas juste en discutant avec les voisins au café. Donc c'était très étonnant, et je pense que c'est un ressenti qui monte et que j'entends y compris de la part de grandes SS2I françaises qui disent est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis, de créer un monde absolument pas souhaitable avec l'emprise du numérique sur le monde. Donc moi je trouve ça absolument... passionnant et fertile comme piste. Et la question, en fait, du colonialisme, elle m'a beaucoup éclairé sur, au fond, ce qui se passe avec le travail social confronté au numérique et comment on dit à tous les travailleurs sociaux, tu dois devenir compétent en numérique. Si on avait une approche interculturelle et pas colonialiste, on demanderait aussi aux gens du numérique d'aller comprendre le travail social. Vous allez comprendre les questions sociales en amont du travail social, vous allez comprendre, par exemple, comme on l'a entendu hier, comment on bosse avec les situations de handicap et dans quel cadre anthropologique ça se situe, etc. Entre numérique et environnement, c'est la même chose. On est en présence, ce qui se joue hein, dans l'exemple de Solène à Lorient dont j'ai rapidement parlé, c'est que les gens qui sont dans la dynamique d'animation locale, de famille énergie positive, etc., c'est des passionnés d'environnement assez militants, ça fait boule de neige, il y en a, c'est quelques centaines de personnes, c'est pas trois farfelus dans un coin, et en face de ça, les gens qui scrutent leur compteur en disant avec mon application je vais changer la question environnementale, ils sont un peu moins nombreux et un peu moins assidus aussi. Et donc, la question est de savoir s'ils vont arriver à se parler, et si la boucle est intéressante, ou si, définitivement, le numérique a été tellement trop arrogant avec sa prétention à résoudre tous les problèmes du monde, que ces acteurs-là vont l'envoyer balader en disant « Non, on n'en veut pas, ça ne marche pas, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous apporte rien. » Donc aujourd'hui, on a vraiment cette cristallisation de tension au travail, dans la cité, dans des questions sociales, dans des questions environnementales, dans des questions de vie quotidienne, dans les relations avec l'administration, entre des gens qui ont l'impression de subir l'injonction au numérique, et donc ce qui va avec, la déshumanisation, l'opacité, tout un ensemble de choses comme ça, la mainmise des plateformes, et puis d'autres qui disent, vous voyez bien que c'est ça l'avenir de l'humanité, et en fait, la position exorbitante du numérique, qui est le futur de tout, ou qui est le futur de substitution de tout, joue évidemment un rôle là-dedans. Donc, on en est là, la chose surprenante hein, dans une enquête qu'on a faite dans le cadre du projet ANR que je coordonnais Capacity, une partie des gens sont des non-usagers heureux. Ça fait longtemps hein, qu'il y a des non-usagers heureux. Il y avait une très bonne étude par des chercheurs de Bordeaux 3 sur les non-usages du numérique en Aquitaine il y a quelques années. Ils disaient déjà il y a ce qu'on appelle des users by proxy, des gens qui sont pas usagers, mais il se trouve qu'ils font leur déclaration d'impôt en ligne, il se trouve qu'ils font des requêtes sur Google, qu'ils accèdent à Wikipédia et ainsi de suite, parce qu'ils sont fortement socialisés. Et donc pour eux, tout va bien. Mais on sort progressivement de cette possibilité, de cette brèche-là, et aujourd'hui, une partie des non-usagers heureux, c'est les gens qui disent, au fond, j'ai assez de sociabilité, j'ai pas besoin de ces trucs-là, je peux m'en sortir autrement dans tout un ensemble de gaz de la vie, et j'adopte des pratiques frugales en matière numérique. Je pense que le chemin qui est en train de se dégager, c'est celui d'une certaine frugalité numérique. Donc d'une écologie attentionnelle, de choix informationnels, et comme vous le dites, le fait de dire « Ok, je sais ce que je fais quand je prends Quant ou d'autres à la place de Google, je sais ce que je fais quand je fais attention, si c'est encore possible, à mon renouvellement de smartphone. » Pour choisir des batteries qu'on peut changer, on peut plus, des conditions de production équitables, où c'est compliqué, etc. Mais voilà, on est sans doute à ce moment-là.